La première.
Entrée sans frapper, Nicolas Beutars.
Février 1931, Charlie Chaplin vient tout juste de terminer la production de son film « Les Lumières de la ville ». Pas réellement en fait avec l'arrivée du film parlant, qui vient juste de tuer le cinéma muet, poursuivi par des soucis personnels comme son deuxième divorce. Charlot décide de revenir au pays, son Angleterre natale, une sorte de retour aux sources, pour penser à autre chose. Il poursuivra ce voyage par un tour du monde, une épopée racontée ici dans ce nouvel épisode de la série que nous consacrons à l'artiste pour les 40 ans de sa disparition, une série réalisée par Cécile Poss.
En 1936, Chaplin sort l'un de ses grands succès, Les Temps modernes.
Ce tour du monde lui a beaucoup apporté. Il a à cette occasion énormément réfléchi. Et c'est sûr que la réalisation des Temps modernes a été profondément influencée par cette expérience.
Francis Borda, spécialiste de Chaplin.
Notamment, il a beaucoup réfléchi à cette occasion, à la grande crise, à la dépression. Il avait des vues très intéressante sur l'économie, assez savante même. Il avait des idées originales, il a tout à fait de gauche, qui aurait été même été jugé très, très subversive pour le capitalisme dominant de son pays d'adoption. Comme solution à la crise, il envisageait par exemple un salaire minimum généralisé pour toute la classe ouvrière, des choses comme ça, sur lesquelles il avait visiblement déjà un argumentaire bien constitué. De tout cela, on trouve sans doute l'écho dans Les Temps modernes, qui est... On peut le dire, son premier grand film politique, même si c'est d'une façon très originale.
Les Temps modernes de 36, qui date d'avant, qui est une sorte de galop d'essai avant le dictateur. Et il fait un film social très très critique.
Adolphe Nisenolk, spécialiste de Chaplin.
Mais il faut savoir que on dit que c'est contre le taylorisme américain, donc le travail à la chaîne, le travail émietté, où chacun a son petit boulot, l'un un boulon, l'autre ci ou ça. Mais quand ce film a été montré en Union soviétique, où il était adoré, où il était estimé, et adoré par les plus grands réalisateurs, Eisenstein, Budovkin, ils ont écrit sur lui. Eh bien, la séquence de la bande transporteuse a été accueillie froidement, parce que l'Union soviétique était dans le boom de l'industrialisation. Et donc, là, on ne parlait pas de taylorisme, on parlait de stakhanovisme. Donc c'est un film qui était une critique de la modernité mondiale, et pas seulement anti-américaine, comme on l'a toujours dit. Les pays de l'Axe, qui étaient eux en pleine industrialisation militaire, ils ne voyaient pas ce film d'un très bon œil non plus. Donc vous voyez, c'est mettre une étiquette sur... Lui, il disait qu'il était citoyen du monde.
À cette époque en Amérique, si on exprimait certaines idées qui...
Michael Chaplin.
Qui n'étaient pas du tout dans la lignée capitaliste, c'était communiste. Si on défendait les droits de qui que ce soit, c'était leur façon, comme l'Église au Moyen-Âge disait c'est un hérétique. Une excuse pour emprisonner, torturer, brûler au bûcher... Et McCarthy, cette méthode, c'est il faut trouver quelque chose, une façon de classifier la personne comme appartenant à quelque chose d'indésirable, de diabolique. Je connais bien des discussions qu'il a eues quand nous, on était enfants, à table, le soir, on parlait de temps en temps politique. C'est vrai qu'il était sympathisant de la révolution soviétique. Il aimait bien Khrouchtchev. Mais je pense que déjà là, parce que les Américains lui avaient fermé la porte, il leur en voulait énormément. Mais en même temps, il reconnaissait, il disait toujours que sans l'Amérique, il serait resté un petit clown de cirque en Europe, que sans l'Amérique, il n'aurait jamais eu cette carrière. Donc il reconnaissait qu'il devait beaucoup à ce pays. Mais en même temps, il avait une haine aussi que la façon dont il a été traité, c'était un conflit.
Il a toujours voulu, je pense, se dissocier de tout parti politique. Il était
Charlie Sistovaris.
Il n'a jamais milité ni pour un parti ni pour l'autre. En plus, bon, d'une certaine manière, la gauche lui reproche d'être mort riche et célèbre. La droite lui reproche d'incarner des valeurs de gauche, parce que implicitement, quand vous incarnez un vagabond... Je crois que pour beaucoup de gens, Charlot n'est pas vraiment un symbole de la pauvreté, mais au contraire de la réussite, parce que Charlot est souvent lié aussi à son créateur, à Chaplin. Pour beaucoup de gens... Charlot, c'est l'espoir, la possibilité de s'en sortir. Et Charlot incarne ça aussi, c'est-à-dire que c'est un survivant des conditions extrêmes, mais il reste, quoi qu'il arrive, combatif et digne. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent que Charlot est un humaniste dans la mesure où il transcende toutes les misères, il reste toujours cette parcelle d'humanité, quelles que soient les circonstances et quels que soient les malheurs.
Chaplin est nécessairement du côté des opprimés. Il a passé les 15 premières années de sa vie du côté des pauvres et c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
Serge Bombert.
Il essaie de ne pas être politique, il essaie d'être le plus universel possible. Et pour être le plus universel possible, il vaut mieux ne pas avoir d'idée politique. Parce que si on exprime une idée politique, tous ceux qui n'ont pas cette idée vont s'éloigner du personnage. Donc, le personnage du vagabond, de Charlot, est prisonnier de cette neutralité et de cette universalité qui s'impose à lui. Néanmoins, Chaplin, aussi milliardaire qu'il soit, reste quelqu'un de profondément humaniste. Je ne sais pas si l'humanisme peut tenir lieu de position politique. Peut-être être humaniste à l'époque, ça voulait dire être de gauche. Peut-être ça voulait dire être communiste. Je ne crois pas que Chaplin ait jamais été communiste. Il n'a jamais adhéré à un quelconque parti. Mais en tout cas, Chaplin avait cette fibre et cette sensibilité sociale. Comment aurait-il pu en être autrement? Et lorsqu'on est du côté des vagabonds, lorsqu'on est, comme dans les temps modernes, du côté des ouvriers et des prolétaires, quand on est du côté du petit barbier juif dans Le Dictateur, bon, accessoirement on est aussi du côté, il interprète également Le Dictateur évidemment, on est nécessairement vécu comme quelqu'un qui n'assume pas son pouvoir, quelqu'un qui évidemment ne fait pas partie des grands réseaux, c'était quelqu'un de seul, il connaissait beaucoup de monde, mais il avait très peu de gens très proche, il travaillait trop, il croyait trop à lui, il était très égomaniaque, ça se voit. Et donc, tout était là pour qu'il soit objet d'exclusion, ou en tout cas de méfiance. Le vagabond, il n'a pas de nom. En France, on l'appelle Charlot, mais en Amérique, on l'appelle The Little Tramp, le petit vagabond. Donc, il était ni de gauche ni de droite, mais il était vagabond.
Entrée sans frapper.